Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Ouvrez notre Bible, alors nous allons prendre une belle histoire. Voilà. On pourrait peut-être intituler notre réflexion « Une si belle prière ». Alors c'est une réunion d'évangélisation, une réunion qui doit nous inspirer, eh bien, non seulement la prière, mais la foi. Alors, un premier texte, nous allons le trouver dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Alors, évangile de Jean, chapitre 15, et nous allons prendre deux versets, ça sera une introduction à un autre texte qui va nous amener, eh bien, à prendre en considération que la prière est entendue dans le ciel, et non seulement entendue, mais elle est répondue, elle est exaucée. Alors, je rappelle, évangile de Jean, chapitre 15, le verset 7, et c'est Jésus qui nous dit ceci, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je passe au verset 11 maintenant et Jésus précise, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alors, il y a une association d'idées. À travers ces propos de Jésus, la première chose, c'est de demeurer dans la foi, dans la personne de Jésus, si vous demeurez en moi, et également, ce qui vient s'y ajouter, et que vous gardiez mes paroles. Si vous les gardez, mes paroles, ce sont ses promesses. Et les promesses alimentent notre prière et servent de fondement à notre attente, à notre espérance, à notre confiance et à notre foi. Alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, ça semble d'une extrême simplicité, et ça l'est. Ce n'est pas que Jésus a voulu nous compliquer la vie, mais c'est nous qui finalement compliquons les choses. Et nous allons le voir d'ici quelques instants à travers un autre passage. Et vous avez remarqué avec moi, Jésus dira parmi d'autres paroles qui sont dans ce chapitre 15 de l'évangile de Jean, il dira « Je vous ai dit ces choses ». Je vous les ai données, je les ai portées à votre connaissance, de demeurer en moi, de garder mes paroles, donc mes promesses. Et je vous dis que le résultat, eh bien vous pouvez me demander des choses. Vous pouvez me solliciter, vous pouvez donc me prier. Alors à ce moment-là, eh bien je voudrais vous dire que cela vous sera accordé. Et parce que cela vous sera accordé, en raison de ce chemin qui nous a été donné, recommandé, alors à ce moment-là, je vous ai dit ces choses, et que la joie qui est la mienne, que je voudrais partager avec vous, alors cette joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Ce qui veut dire qu'il y a une chose qui réjouit le cœur de l'homme, c'est quand il est exaucé. Et ce n'est pas n'importe quel exaucement, parce que ce n'est pas un exaucement humain, ce n'est pas un exaucement par des procédés ou un processus de la terre, mais c'est parce que vous êtes tourné vers le ciel, vous avez invoqué mon nom, vous avez mis votre confiance en moi, vous avez gardé ma parole, vous avez cru en mes promesses, alors maintenant vous allez voir se réaliser ce que vous m'avez demandé, parce que ça vient d'en haut, parce que c'est miraculeux et surnaturel, et moi je vous assure que votre joie soit parfaite. Et c'est ce qui donne des convictions. Après avoir prié, de dire, eh bien, Dieu a entendu ma prière, il m'a délivré, il m'a secouru, il m'a pardonné, il m'a sauvé, et puis, tant d'autres choses. Alors on va rester sur cette pensée et nous allons tourner les pages de notre Bible. Maintenant nous allons revenir à une si belle prière. Alors vous avez certainement lu et relu, mais ce soir je voudrais un petit peu l'étoffer avec quelques principes, quelques rappels pour nous montrer que si nous sommes dans les dispositions dont Jésus nous parle, eh bien c'est pour que nous ayons la joie de Christ en nous, la joie de Dieu en nous, la joie de l'exaucement, et que cela soit vraiment et bien parfait pour chacun. Alors, cette si belle prière, nous la trouvons dans le livre des Rois, 1 Rois, chapitre 3, verset 4, et nous allons le relire. Elle est fameuse parce que c'est une des plus belles prières qui est consignée dans le livre de l'Ancien Testament, c'est la prière de Salomon. Voilà, prière du roi Salomon, alors qu'il était un tout jeune homme, et avec certainement beaucoup de sincérité, beaucoup d'innocence, il a prié son Dieu, et vous allez voir que Dieu l'a béni au-delà de toute mesure, de toute espérance. Comme l'apôtre Paul le dira, parce que lui-même avait fait l'expérience de la prière infinie, de la prière inimaginable qui descend du ciel, il dit, bien, ce Dieu qui exauce au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous pouvons lui demander, de tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, on va le voir tout de suite. Donc, 1 Rois, chapitre 3, verset 4. Le roi Salomon se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur le trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne me demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donne, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements comme je l'ai fait comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem, et il se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Voilà pour cette lecture. Je dis bien une si belle prière. Alors nous allons voir en quoi elle est belle. Elle est au-dessus de bien des prières des hommes, et elle nous sert en quelque sorte peut-être de réflexion, de modèle, on pourrait dire cela, sans tomber dans ce que Jésus nous dit, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc ce n'est pas une vaine redite, ce n'est pas une répétition, ce n'est pas une récitation, ce ne sont pas tant les mots qui comptent dans cette prière, mais c'est l'esprit, c'est de quoi elle est constituée, la motivation, le mobile, et ça c'est important. Je vous ai dit il y a un instant que nous allions passer en revue quelques principes élémentaires que suggère tout simplement eh bien le texte. D'abord, je voudrais vous dire que la prière de Salomon et la prière qui est entendue, comme nous l'avons lu dans l'évangile de Jean, son inspiration vient de Dieu. Je voudrais dire tout de suite que ce n'est pas une prière de l'âme, ce n'est pas une prière religieuse, ce n'est pas une prière parce que c'est un devoir, parce qu'il faut prier, mais c'est une prière qui a son inspiration venant de Dieu. Et on va le découvrir, je relis. Je vous ai dit que le roi Salomon est allé dans un lieu qui s'appelle Gabaon, et il était allé avec son peuple certainement pour sacrifier, pour faire une offrande à Dieu, pour marquer des actes de dévotion de sa part, de lui et de son peuple. C'était en quelque sorte l'intronisation dans ce règne nouveau après 40 ans où son père, le roi David, avait régné sur Israël. Et là, il est tout nouveau roi, alors il veut tout simplement marquer le fait pour dire merci à Dieu. Alors il va dans cette ville de Gabaon. Il nous est dit que, précisément à Gabaon, l'Éternel lui est apparu en songe. Alors, on ne va pas discuter sur la nature de cette apparition, mais en tous les cas, Salomon a été convaincu que Dieu était présent à cet endroit, que Dieu l'interpellait, il lui parlait, il parlait à son cœur, et qu'il y avait là une relation, une communion avec son Dieu. Donc, Dieu est apparu à Salomon pendant la nuit. C'est la caractéristique des songes, la nuit. Et voilà que Dieu l'interpelle et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et là, nous avons l'inspiration de la véritable prière, de la belle prière, de la prière qui est entendue dans les cieux, parce qu'elle ne vient pas, elle ne monte pas du cœur de l'homme, mais elle vient de Dieu, elle est déposée dans le cœur de l'homme, et l'homme à ce moment-là, inspiré, va demander quelque chose, va demander ce qui est juste, va demander ce qui est selon la volonté de Dieu, en conformité avec ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut donner, ce qui sera le meilleur, ce qui sera pour le bien, et ce qui sera finalement, une source de joie. L'inspiration. C'est pas Salomon, c'est Dieu qui lui dit, et il lui fait cette proposition, écoute, demande ce que tu veux que je t'accorde, et je vais te l'accorder. C'est la prière inspirée. C'est la prière inspirée de Dieu, c'est la prière inspirée de l'Esprit. Et il n'y a pas de plus belle prière, hier comme aujourd'hui, lorsqu'un homme et une femme se sentent poussé à ouvrir la bouche et à demander des choses qui appartiennent peut-être à une dimension ou un désir, peut-être spirituel, peut-être à caractère moral, ou peut-être tout simplement une délivrance, une libération, une guérison, et c'est Dieu qui l'inspire. C'est comme un soupir, mais un soupir qui vient d'en haut, qui descend dans le cœur de l'homme, et du cœur de l'homme et par la bouche de l'homme, ça s'exprime dans une prière qui remonte vers le ciel. L'inspiration, premier principe élémentaire. Et puis il y a une chose également qui est soulignée dans ce texte, quand on en fait l'analyse, c'est la confiance et la reconnaissance de la bienveillance divine. Et nous l'avons à travers le verset 6. Salomon répondit, il a entendu, il a compris et il s'est exprimé et il s'adressera à Dieu en ces termes. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Nous voyons que Salomon avait été élevé par un père, roi d'Israël, appelé David. Son règne avait été de 40 ans et David était un homme de foi. Était un homme, comme la Bible nous le dit, un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis de péché. Quelquefois, ils étaient assez grossiers. Mais toujours est-il que néanmoins, il avait la foi. Il avait la foi depuis toujours. Et c'était un homme extraordinaire, David. Et Salomon avait grandi, quelque part, dans cette dans cette présence de ce grand homme de foi qui était son père David, et il en avait vu l'exemple. À un moment donné, je ne l'ai pas lu, mais il nous est dit au verset 3 du chapitre 3, il nous est dit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Donc, il avait vu un exemple, un bon exemple, et combien de fois peut-être le petit Salomon, ou Salomon un peu plus tard, ou adolescent, avait vu son père monter au temple et prier, mais il ne faisait pas que ça, David. Il priait, il jouait de la musique, il a composé des psaumes qui sont de merveilleuses prières, et ça, ça avait imprégné profondément, eh bien, Salomon. Alors, il le dira, mais tu as usé d'une grande bienveillance envers mon père, parce qu'il marchait dans ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis aujourd'hui sur le trône, comme on le voit aujourd'hui. Oui, ça c'est extraordinaire. Et deuxième principe élémentaire de la prière, c'est faire confiance à Dieu. Le Dieu qui a fait confiance peut-être hier, c'est le Dieu auquel nous pouvons en toute sécurité faire confiance aujourd'hui et nous pourrons lui faire confiance encore demain. L'histoire de David, c'était hier. Aujourd'hui, c'est Salomon. Et il affirme sa confiance. Et demain, eh bien, le Dieu de David, le Dieu de Salomon, sera encore avec Salomon s'il le veut. Encore le même Dieu. Et puis, une chose qui est tout à fait particulière, c'est que il est reconnaissant, Salomon. Il reconnaît que finalement Dieu est un Dieu de bienveillance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre Dieu est un Dieu qui fait du bien. Je le répète, c'est pas un Dieu qui fait du mal. Même quand David a pu faire quelquefois des grosses erreurs, Dieu est resté bienveillant. En raison d'une chose, non pas que David était un homme parfait et au-dessus de tout soupçon, mais c'est que David, même dans ses erreurs et dans ses péchés, eh bien, a fait quand même confiance à Dieu malgré tout ça, en pensant que Dieu pouvait lui pardonner, dans la mesure où il revenait vers lui, avec un cœur repentant. Le deuxième aspect de la prière, après celui de l'inspiration qui vient d'en haut, c'est la confiance et la reconnaissance de la bienveillance de Dieu. Si nous prions, lorsque nous prions, quand nous prions, il faut qu'au cœur de cette démarche que nous faisons vers le ciel, vers un Dieu que nous ne voyons pas, donc un Dieu invisible, mais un Dieu bien présent, c'est qu'il est bienveillant, notre Dieu. Si vous demandez, il va vous répondre par le bien, pas par le mal. Il y en a un qui répond par le mal. C'est celui qui est le contraire de Dieu. Lui, il répond toujours par le mal, il ne peut pas faire le bien. Mais Dieu est un Dieu qui fait le bien. Et quand bien même, parfois, dans des égarements, nous commettons, nous, le mal, et que nous faisons ce qu'il attend de nous pour que nous revenions à lui, eh bien, il va changer le mal en bien, et ça, c'est la bienveillance de Dieu. Et ça, vous le croyez. J'entends quelquefois, parfois, des chrétiens qui me disent « Oh là là, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai fait tel ou tel péché, ça va me tomber sur la tête, etc., etc. » Mais quelle suggestion? D'où vient cette suggestion? Surtout quand il y a la démarche normale de la repentance et d'une reconnaissance de notre culpabilité et de notre péché, ça c'est clair. Comment le fils prodigue a-t-il été accueilli par son père? Avec malveillance ou avec bienveillance? Eh bien la prière c'est ça, je peux en chaque instant, Seigneur, eh bien m'approcher de toi. La bienveillance divine. Troisième point, ce que j'appellerais le caractère actif dans nos prières ou de nos prières, qui se manifeste par la foi et l'humilité. Alors on va le lire. Le verset 7, « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Seigneur, je suis un jeune homme. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas l'expérience de mon père, le roi David, qui était un homme fort. » Un homme de foi, un combattant, un homme vaillant, un héros. Moi, je n'ai pas cela. Nos prières ne doivent pas être passives. Elles doivent être actives. Et cette activité, ou le caractère même de cette prière, doit trouver son activité dans deux choses. La foi. Salomon fait confiance à Dieu. Devant le problème, devant la tâche à accomplir, devant une gestion d'un peuple entier, d'une royauté dans laquelle il est introduit. Et il se dit, mais comment je vais faire? Ah, il était déjà bien différent de nos prétendants à la présidence de la République qui disent, moi quand je serai président, je ferai ceci, je ferai ça, et ceci, et cela. Je crois que je l'ai entendu 16 fois dernièrement. Salomon ne dit pas ça. Salomon a foi en Dieu. Il n'a pas foi en lui. Il n'a pas mis sa confiance en lui. Il met sa confiance en Dieu. Parce que c'est un homme humble. Un principe qui rend la prière active et qui nous permet de nous approcher de Dieu sans crainte et sans honte, c'est l'humilité, la modestie. Seigneur, je reconnais que je ne peux rien par moi-même, mais avec Dieu, avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Je ne sais pas gouverner un peuple. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Parce que dans ce peuple d'Israël, il y a de l'opposition. Il y a des gens qui m'aiment, mais il y a des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui, vont certainement me faire du mal. Ça, c'est sûr. Mais il se confie en Dieu. Voilà, il le dit, hein. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et pourtant, tu m'as choisi. C'est toi qui m'as mis en place. C'est pas moi qui suis allé. Ce peuple qui est si grand, on ne peut même pas le compter. Alors c'est terrible, Seigneur. Qu'est-ce que je vais devenir? Le caractère actif de nos prières, la foi et l'humilité. Et puis voilà que surgit, eh bien, quelque chose aussi qui va nourrir, qui va grandir dans notre cœur et qui va faire que notre prière soit une belle prière exaucée. Je dis pas seulement une belle prière, mais une belle prière entendue et exaucée de Dieu. Nous l'avons dans ce verset suivant, et c'est le corps même de la prière. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et ça, nous touchons à deux aspects élémentaires, essentiels de la prière, principe de la prière. C'est l'objet, c'est-à-dire ce que nous demandons. Le corps même, je demande, c'est l'objet. Et la motivation de ce que nous demandons. Ça, faut pas l'oublier. Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, a dit ne multipliez pas de vaines paroles, parce que vous les faites dans une forme de récitation comme les païens, et ne nous faites pas d'illusions. C'est pas parce que vous allez, excusez-moi l'expression, c'est pas beau, mais rabâcher des dizaines de fois la même chose que vous serez entendu. Jésus veut nous dire que Dieu tourne le dos, il ferme les oreilles, il se bouche les oreilles quand c'est comme ça. Parce que la prière n'est pas pensée. Elle est répétée. Épuisant ce genre de choses, d'exercice, qui n'est même pas un exercice spirituel, mais qui n'est tout simplement, eh bien, que un exercice d'une vaine croyance, comme il y en a dans les religions, chrétiennes et non chrétiennes. Donc, il faut qu'il y ait dans cette prière un objet. Et il le demande. Accorde donc à ton serviteur. L'objet, c'est un cœur intelligent. Et il y a une motivation, c'est pour juger ton peuple. C'est pour lui faire du bien. Seigneur, tu es bienveillant avec moi, alors je te demande que tu me donnes l'intelligence pour être bienveillant avec mon peuple. Et quand la bienveillance se répand partout, quand elle inonde finalement un peuple, une famille, une vie, et tout ce que vous voudrez, alors c'est le bien qui est en place à ce moment-là. Et la bénédiction de Dieu, eh bien, descend. Accorde donc ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, mais aussi pour discerner le bien et le mal. C'est-à-dire que le désir de Salomon, c'est de pouvoir faire la différence pour être juste entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est pur et ce qui est impur. Ça, c'est moral. Ce sont des valeurs morales. Et quand on prie, je crois que notre aspiration, d'une manière ou d'une autre, et Dieu va toujours nous inspirer avec des valeurs morales, entre le bien et le mal, de faire le choix qui n'est pas toujours facile, en raison du monde dans lequel nous sommes, en raison de notre nature qui reste une nature tellement encline à aller vers de droite et de gauche, pour discerner le bien du mal. Mais Dieu va toujours nous inspirer ce qui est bien, pour éviter le mal. Ça, c'est l'objet et la motivation de ce que nous demandons. Et si j'en conclus, ne serait-ce que sur ce paragraphe, la recherche de Salomon était la gloire de Dieu, et le bien d'autrui. Et quand nous prions, la prière qui plaît à Dieu, c'est la prière qui glorifie son nom. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. La gloire de Dieu et également, eh bien, le bien d'autrui. Seigneur, je te prie pour celui-ci ou pour celle-là. Je te prie pour mon pays. Je te prie pour ces hommes, ces femmes qui sont autour de moi. Je te prie pour mes amis. Je te prie pour mes adversaires et mes ennemis. Là, c'est beaucoup plus difficile, hein. Mais néanmoins, c'est quand même ça. C'est ce que Jésus nous dit. Eh bien, quand on vous fera du mal, répondez par le bien. Priez. Priez pour le bien. Parce que cette humilité caractérisée de Salomon est encore exprimée. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Seigneur, si tu ne viens pas m'aider. Et là, nous touchons encore un autre aspect de la prière que Dieu exauce, c'est de se sentir faible et de chercher la force de Dieu. De se sentir incapable et impuissant pour avoir, finalement, eh bien, le secours du Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de formidable. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça se limite à cette parole. Seigneur, combien j'ai besoin de toi? Parce que j'y arriverai pas tout seul. Et Dieu, à ce moment-là, eh bien, est glorifié. Quand il voit des hommes tête haute, la poitrine gonflée, en disant, Seigneur, tu t'écartes parce que je peux me débrouiller tout seul, ben, vous croyez que le Seigneur, il s'écarte, hein, et nous laisse faire. Mais si on lui demande, avec cette humilité, avec cette confiance, disant, Seigneur, tu sais, dans telle ou telle situation, je vais avoir vraiment besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais moi, je compte sur toi. Eh bien, le Seigneur passe devant nous et nous ouvre les portes. Toutes les portes. Et puis, nous voyons dans les versets 10 et 11, où il est dit ceci, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors, vous avez vu, hein? Vous avez entendu. Elle a eu l'agrément de Dieu. C'est une prière qui est montée vers le ciel. Elle venait du ciel. Elle est tombée dans le cœur de Salomon. Salomon l'a exprimée par sa bouche et par son cœur, dans la foi et dans l'humilité. Et elle est remontée au ciel. Et à ce moment-là, Dieu au ciel l'a entendue. Et du ciel, eh bien voilà la réponse. Parce que Dieu répond toujours. Cette demande de Salomon donc plut au Seigneur. Et Dieu lui dit. Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, alors, nous avons ici les nobles buts, je dis bien la noblesse des buts de la prière. Parce que Dieu a entendu, il a vu le cœur, il a vu les mobiles, il a vu les motivations, et Dieu a agréé, et Dieu lui répond, est-ce vraiment ça ce que tu demandes, Salomon? Je sais que c'est ça parce que je connais ton cœur. Il ne doit pas y avoir de dissociation entre ce que nous disons par la bouche et notre cœur. Il doit y avoir un accord parfait entre notre cœur et notre bouche. Autrement, c'est pas la peine de demander. Autrement, nous ne serions que des hypocrites comme les pharisiens qui demandaient une chose mais qui pensaient le contraire. Puisque c'est ça, et Dieu va faire un peu va décortiquer un peu tout ça, il va lui dire, mais puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie. Ah, c'est redoutable la mort, hein. Et ça doit être encore beaucoup plus redoutable pour les gens qui vivent élevés en dignité et qu'un jour ou l'autre, il va falloir quitter toutes ces richesses, toute ce prestige, cette autorité, cette réputation. Déjà, pour un simple mortel, c'est déjà pas facile. Mais tu ne demandes pas une longue vie. Seigneur, fais-moi vivre le plus longtemps possible. Oui, Seigneur, je veux vivre le plus longtemps possible, mais dans de bonnes conditions. Et toujours aller jusqu'au bout de mon existence en faisant le bien. Et encore avec, si tu me l'accordes, les capacités physiques, les capacités mentales et cérébrales. Comprenez? Alors, tu ne m'as pas demandé une longue vie. Tu ne m'as pas demandé des richesses. Il était quand même roi à l'époque, hein. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Ça, c'est quelque chose, parce que si tu me demandes de t'aider pour gérer le... Hein, t'aurais pu me dire, écoute, moi ça va pas être facile d'être roi, mais tu élimines tous ceux qui me veulent du mal, comme ça on sera tranquille. Non, il a même pas demandé ça à Salomon. Mais tu me demandes l'intelligence pour exercer la justice, alors ça change. J'ai bien entendu, Salomon. Et ce que tu me demandes, eh bien ça me plaît. Ça me plaît. Et la réponse est la suivante, celle de Dieu. Voici, j'agirai selon ta parole. Dites donc, vous rendez compte que c'est Dieu qui obéit à la parole d'un homme? Vous rendez compte que Dieu obéit à nos prières? Oh, il n'est pas obligé, hein? Mais il le fait parce qu'il nous aime. Il nous fait parce que il a vu que ce que nous lui demandons, c'est pour sa gloire et c'est pour le bien des autres. Pas notre bien en priorité pour nous. Quelquefois, il y a des prières que nous entendons. Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis-moi, et ça dure, et on n'entend pas parler des autres. On n'entend pas parler de la gloire de Dieu, on n'entend pas autre chose, c'est moi, moi, moi et moi seul. Non, c'est pas ça la prière. Vous voulez que Dieu exauce vos prières, eh bien priez pour les autres, et vous verrez que Dieu va s'occuper de vous. Et ça, c'est extraordinaire et formidable. Alors, j'agirai selon ta parole, répond Dieu, et voilà, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra personne qui soit semblable à toi. Et je te donnerai en outre, et remarquez bien le mot, l'expression en outre, en plus, ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Hey. Voilà le résultat de la foi, de la prière de la foi, exprimée avec de nobles buts, avec une motivation vraie, saine, et voilà les libéralités divines. Est-ce que vous croyez que Dieu est libéral? Dieu n'est pas un apothicaire qui prend son compte-goutte et est en train de compter dans un verre les bénédictions qu'il nous donne. Voilà, tu veux 3 bénédictions, je dépasserai pas la dose. Hein. 1, 2, 3, c'est tout, ça ira pas plus loin. Mais Dieu, vous allez le voir, il nous bénit au-delà. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Quand Dieu bénit, il bénit avec profusion, il bénit avec abondance. Et ça, il faut le croire. Je m'approche de lui, et je crois que ce que je te demande aujourd'hui, tu vas m'en donner encore beaucoup plus. C'est pas pour que tu m'en donnes plus, mais je crois que déjà, ce que tu me donnes, c'est déjà formidable et merveilleux, mais je peux m'attendre à ce qu'il y ait, eh bien, davantage, parce que tu n'es pas régressif, Seigneur. C'est toi qui donnes, puisque tu es riche, universellement riche. Tes trésors dans le ciel sont inimaginables, incommensurables. Alors ça, c'est la foi dans les libéralités divines. Quelquefois, nous sommes tellement limités. Nous sommes un peu comme Pierre qui entend Jésus lui dire « jette tes filets » et Pierre qui se dit oh, « on va d'abord en jeter un, on verra bien après ce que ça donnera. » Parfois, ça arrive que lorsque nous prions pour les malades, ils viennent et ils disent « mais je voudrais que Dieu me bénisse un petit peu. » Vous en avoir un petit peu. « Seigneur, je voudrais que tu me bénisses abondamment, que tu me bénisses richement, que tu me bénisses comme toi tu sais bénir. » Et c'est pas une affaire de quantité, c'est une affaire de qualité, Seigneur. Alors, libéralité divine, le plus que ce qu'on espère, et combien de fois nous l'avons vu dans notre vie de chrétien, où nous avons demandé certaines choses au Seigneur, et nous nous sommes aperçus que, mais, le Seigneur en rajoute, le Seigneur en donne en plus, et on s'en aperçoit toujours sur le moment, on se dit, mais Seigneur, tu avais tout prévu. Et ça, c'est un sujet extraordinaire de joie, formidable, merveilleux. Et puis, je vais terminer sur ce qu'on pourrait appeler les conditions essentielles de l'exaucement, à travers le verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Tu vois, tu m'as pas demandé une longue vie, mais moi je veux que tu vives longtemps. Parce que si tu es un homme qui est dans ma bénédiction, premièrement tu seras accompagné jusqu'au bout, dans des conditions que tu ne pourrais même pas te procurer toi-même ou espérer, mais je te donnerai une bonne, belle longue vie, parce que tu es mon serviteur, et parce que tu as bien compris le sens de la prière, eh bien je veux que tu vives longtemps pour que ta présence au milieu des hommes et au milieu de ton peuple soit encore très longtemps une bénédiction pour tous les autres. C'est que nous ne sommes pas bénis tout seuls, mais nous sommes bénis pour les autres. Ça va beaucoup plus loin que cela. Oui, cherchons à être exaucé de Dieu pour que notre bénédiction que nous allons recevoir pour nous en propre, eh bien ce soit une bénédiction aussi pour les autres. Mais vous avez remarqué, si tu observes, et tout à l'heure il nous est dit, si vous demeurez en moi, vous l'avez lu, si vous gardez ma parole, C'est pareil. Ce sont des conditions qui ne sont pas des commandements pénibles, mais des choses qui devraient susciter en nous, eh bien, de dire, eh bien, Seigneur, véritablement, je veux que ta grâce et ta bénédiction, eh bien, coulent en moi comme un fleuve, comme les flots de la mer, pour que tout le monde en profite. Ouais. Obéissance et fidélité. Obéissance dans un bon état d'esprit. Obéir à Dieu, ce n'est pas obéir dans une attitude et un comportement servile et de crainte, c'est obéir dans la joie et dans la paix et dans la foi. Parce que la foi, elle procure la paix et elle procure la joie. Et puis, il nous est simplement rappelé en conclusion, Salomon s'éveilla. C'est beau, parce que ce terme s'éveiller, c'est nous amener à rentrer dans une nouvelle dimension. Vous savez, quand on s'éveille, on rentre après dans la réalité. En sachant peut-être que quand nous avons prié, nous étions dans une situation comme dans un marasme, un sommeil, un cauchemar. La vie, c'est ça, quelquefois. C'est pas toujours ça, mais je veux dire. Et là, nous nous éveillons à une nouvelle dimension. L'exaucement des prières que Dieu nous donne nous fait rentrer, eh bien, dans quelque chose de neuf, dans quelque chose de... Nous pouvons dire, mais nous avons fait une expérience, nous avons rencontré le Seigneur, nous avons vécu ceci et cela. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour nous. Vous ne croyez pas que c'était une nouvelle vie pour le paralytique de la belle porte du temple à Jérusalem dont nous avons parlé il y a quelques jours, ou le boiteux de Bethesda qui était malade depuis 38 ans, vous ne croyez pas qu'il s'est éveillé à une nouvelle vie? Eh bien, c'est la même chose. Quand on rentre dans un exaucement de prière, on rentre dans quelque chose de nouveau. On s'éveille. On s'éveille à une autre dimension. On grandit dans une autre dimension de la foi. On sait que notre vie chrétienne, qui a déjà fait probablement eh bien, des rencontres et des expériences avec le Seigneur, on a fait une de plus. Et ça consolide, ça fortifie. On s'éveille encore. On va de plus en plus loin dans la réalité, finalement, spirituelle et de la vie avec le Seigneur. Alors, il s'est éveillé, tout simplement. Et voilà le songe. L'exaucement. Sous deux formes particulières, qui va exercer encore une autre qualité du chrétien qui prie. L'exaucement dans l'immédiateté ou l'exaucement dans le temps et dans l'espace. D'accord? C'est pas trop difficile? Non. Il y a des exaucements qui se font immédiats. Il y a des exaucements, je crie, je prie et je suis exaucé dans l'immédiat. Et puis, il y a des exaucements où, quelque part, on se dit, mais j'ai prié, mais Seigneur, tu n'as pas encore répondu. Et vous savez que quand Dieu ne répond pas, je le répète, ça ne veut pas dire qu'il ait dit non, et ça ne veut pas dire qu'il ait dit oui. Ça veut dire une chose. Attends. Continue à croire, attends. Voilà. Et quelquefois, nous, par notre impatience, nous disons, Seigneur, t'as pas répondu, donc tu veux pas me répondre. Faux. Et il y en a un qui nous attend pour dire, tiens, regarde ton Dieu, tu l'as prié. Hein. Regarde, il n'a pas entendu, il ne veut même pas t'exaucer, tu n'es même pas dans sa volonté. Enfin, il va nous faire croire qu'on n'est pas dans sa volonté. Vous savez, il faut faire attention, hein, parce que la prière, c'est avant tout un exercice spirituel. Ce n'est pas notre âme. Ce n'est pas notre religiosité. Ce n'est pas ce que l'on ressent, ce n'est pas ce que l'on sent, ce n'est pas ce que l'on voit, ce n'est pas ce que l'on touche, c'est pas ce que, voilà, ceci et cela. Mais c'est une conviction profonde de notre cœur. La prière de la foi. Alors elle est belle, la prière de Salomon, une si belle prière. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance. Vous avez remarqué que quand il est allé à Gabaon, il a été sacrifié dans un haut lieu. C'était pas là qu'il devait aller, hein. Pourtant Dieu l'a rencontré quand même là. Parce que Dieu tient compte de certains paramètres dans notre vie. Mais quand il est revenu à Jérusalem, quand il s'est éveillé à ce moment-là, il est allé à Jérusalem et il s'est présenté devant l'Arche de l'Alliance. C'est là où Dieu avait dit que le peuple me rencontrerait. Il a pris une nouvelle dimension dans sa vie spirituelle à cause de cet exaucement. Et chaque exaucement, quel qu'en soit l'objet, ce soit pour notre vie physique, notre vie sentimentale, notre vie familiale, notre vie conjugale, que ce soit pour notre vie économique, notre vie morale, notre vie psychologique, que ce soit pour notre vie d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça doit toujours nous amener un petit peu plus haut, un petit peu plus, de délaisser nos lieux où nous bricolons je ne sais pas quelle chose pour essayer de trouver la bénédiction de Dieu avec nos moyens humains. Ça, c'était les hauts lieux. pour arriver devant l'arche, qui était véritablement le lieu là où Dieu rencontrait sa créature. Il s'est éveillé. Eh bien, ce soir, le Seigneur nous demande tout simplement de prendre en considération cette si belle prière et de pouvoir dire, eh bien, Seigneur, comme les disciples, ça nous est rapporté dans l'évangile de Luc, chapitre 11, me semble-t-il, où un jour il nous est dit que Jésus se leva de bon matin et que ses disciples étaient à côté de lui, ils le voyaient prier et ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Oui, la prière, c'est une belle chose. La prière enseignée par toi, la prière motivée par toi, la prière inspirée par toi, celle qui descend d'en haut, qui est là serrée, qui est là, en effet, retenue dans notre cœur et qui repart, Père éternel, avec des mots, Seigneur, que tu nous inspires et qui remontent vers le ciel et qui du ciel redescend vers nous d'une manière concrète, d'une manière matérialisée, c'est-à-dire l'exaucement. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Et combien nous pouvons te demander, Seigneur, que tu nous apprennes à prier, en effet, comme Salomon. Et nous savons, Seigneur, que lorsque tu ouvres les écluses des cieux, tu ne comptes pas tes bénédictions. Tu ne les mesures pas. Mais une écluse, lorsqu'elle lâche ses eaux, Seigneur, eh bien, il y a une abondance. C'est un tumulte de bénédictions, de grâce et d'abondance. Seigneur, qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans le nom de Jésus, en nous souvenant, Seigneur, que dans la parole, dans le livre de Malachie, eh bien, tu nous dis et tu dis aux hommes, en effet, que de t'invoquer, d'invoquer ton nom, mettez-moi à l'épreuve, invoquez mon nom, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors ouvre-nous les écluses des cieux, donne-nous de bien prier, donne-nous de prier comme il convient de prier, et ainsi, eh bien là, en effet, la joie qui est en Dieu sera notre joie, et cette joie-là sera parfaite. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.